Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi soir pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne immédiatement avec Ravelli Lemel. Bonsoir Ravelli Lemel, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Ravelli Lemel, on rentre dans ces Shabbats d'hiver qui rentrent de plus en plus tôt et que moi, personnellement, j'affectionne tout particulièrement. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école, on aime bien quand ça rentre tôt, et il y a ceux où ça rentre tard. Vous avez une préférence, vous ?
Écoutez, dans les deux cas, il y a des choses sympathiques. quand ça rentre tôt, eh bien, ça nous permet d'avoir de longues soirées de vendredi soir dans lesquelles on peut étudier, discuter, avoir des invités, rester tard avec eux. C'est très sympathique. Et puis quand ça rentre tard, eh bien, ça nous permet en Erev Shabbat de prendre le temps de nous préparer à accueillir la reine du Shabbat. Voilà, donc je pense que dans les deux cas, il y a des choses sympathiques à y prendre.
Ah oui. D'ailleurs, c'est le principe des saisons. Quand on retrouve une nouvelle saison, évidemment, on y trouve des nouvelles choses. Moi, j'aime quand même les Shabbats d'hiver. Bref, je parle de moi, c'est pas le sujet. Nous avançons dans notre parasha de la semaine, et là, on arrive à Noar. C'est toutes ces très belles parachutes de Bereshit où on apprend des tas de choses, où c'est très anecdotique, très, très coloré, chacun connaît. Et dans Noar, vous avez voulu vous réfléchir ce soir sur les trois fils de Noé, Shem, Ham et Yafet, ce qu'ils signifient, en quoi ils sont les trois fondateurs de l'humanité, et qu'est-ce que selon la Torah ils représentent. Alors parlez-nous, Ravelli Lemel, de Shem, Ham et Yafet.
Oui, tout à fait. Alors, quand on voit le texte, on nous cite le nom de ces trois fils de Noé, Shem, Ham et Yafet. Et c'est à partir d'eux que l'histoire va redémarrer par la suite. Alors, évidemment, lorsque l'on donne des noms, on a besoin de comprendre ce qui se joue derrière ces noms. Et j'aimerais les analyser un petit peu. Tout d'abord, on a le premier qui est Shem. Alors Shem, c'est vrai que c'est celui qui va faire émerger par la suite le peuple d'Israël. Shem, c'est le nom, mais c'est aussi, puisque vous savez que l'hébreu est une langue consonantique, donc on voyait les choses de manière différente, si on le désire, eh bien Shem, c'est Sham, c'est là-bas. La notion de Sham, du là-bas, c'est celle qui nous renvoie à la dimension d'objectif. Quelque chose vers lequel on est censé tendre, une finalité. Et intéressant de constater que Sham, lorsque vous le mettez à l'envers, ça fait mâche. La mouche, c'est-à-dire s'écarter de... On pourrait dire que s'écarter de sa propre histoire, ne pas vivre son histoire, s'en aller d'elle. Peut-être qu'on a déjà ici une première indication sur, au passage, que le peuple d'Israël va avoir comme responsabilité dans l'histoire, c'est d'incarner cette dimension du Sham, d'un objectif, d'une finalité vers laquelle on tend. Et évidemment, à partir de là, la manière dont on repense sa relation au quotidien n'est plus du tout la même. Et puis après, vous avez Ham. Alors Ham, c'est intéressant, Ham, c'est l'univers de la chaleur. Et pour la tradition juive, quand on parle de chaleur, on parle du monde, j'ai envie presque de dire physiologique, du monde dans lequel c'est le corps qui est là, qui est vraiment là, qui est là avec toute sa chaleur, avec ses pulsions, avec tout ce qui est à l'intérieur de lui. Et puis, quand vous prenez Ham et vous le mettez à l'envers, vous avez Memchet, c'est-à-dire Moach, l'intellect. Comme pour nous dire qu'il va y avoir aussi un autre enjeu dans l'histoire de l'humanité, c'est de savoir est-ce que la dimension émergente de l'être se situera au niveau de, au sens non péjoratif du terme, évidemment, de son animalité, c'est-à-dire de sa dimension chaude, de sa dimension physiologique, physique. Est-ce que c'est ça qui va occuper toute la place, ou alors il va justement faire émerger sa spécificité, c'est-à-dire Moach, un cerveau, mais vous direz que les animaux en ont aussi évidemment, mais un cerveau qui justement est très particulier, puisque c'est celui à partir duquel eh bien, la conscience émerge, la notion de réflexion, et tout ce qui est au fond le propre et la caractéristique de l'humain. Donc on a déjà, vous voyez ici, un petit peu un début de programme. Le début du programme, c'est donc le shem, le sham, la finalité, ou alors au contraire, on s'écarte de ce que l'on peut être, quelle est la partie essentielle de nous-mêmes que nous allons faire émerger. Et puis, le troisième. Et le troisième, au fond, il est très intéressant parce que c'est Yafet. Yafet, Yefet, c'est la notion du beau, c'est de la beauté. Et vous savez qu'à propos justement de la beauté, le texte de la Torah va nous dire « Yaft Elohim le Yefet veishkon bo aleshem » que la beauté soit présente chez Yafet, la beauté, Dieu donne la notion du beau à Yafet, « veishkon bo aleshem » et qu'elle réside dans les tentes de Shem. Ça veut dire quoi ? La notion du beau, c'est, j'ai presque envie de dire, le monde des arts, dans toutes leurs formes, mais la Torah nous dit « attention ». La notion du yafé, la notion de la beauté, elle peut être prise de différentes manières. Regardez, quand vous prenez le mot yéfet et que vous organisez les lettres différemment, puisque là il y a trois lettres, eh bien ça vous donne péti. Péti, c'est l'imbécile. Alors vous allez me dire, quel rapport y a-t-il entre la beauté et l'imbécilité ? Eh bien, je pense que le texte nous dit entre autres la chose suivante. Soit le beau, et là pour reprendre une très très jolie formule du Rav Yeshurun, pour donner au vrai une dimension plus spacieuse, plus vaste, c'est-à-dire que la capacité artistique, quels qu'en soient les domaines, eh bien, va être exploitée pour s'inscrire d'abord dans un contact avec ce qui est du domaine du vrai, et puis après, eh bien, ce vrai, on va le magnifier, on va lui permettre d'apparaître dans toute sa splendeur et donc de le ressentir et de le vivre pleinement. Ça, c'est ce qu'on appelle « veishkon bo aleshem », que justement, cette beauté réside dans les tentes de Shem, c'est-à-dire dans l'univers dans lequel, comme on a vu Shem, il y a une tension vers un objectif, vers une finalité, et donc nécessairement une dynamique qui tend vers le vrai. Mais si ce n'est pas cela, si le beau existe pour lui-même, si l'art existe pour lui-même, eh bien dans ce cas-là, on est dans un monde de fous. Alors, pourquoi cela ? Vous savez, j'ai été un jour très interpellé par la fameuse histoire de ce tableau couché de soleil sur l'Adriatique. Il me semble que c'est Cocteau, à l'époque, qui avait pris un âne, et devant huissier, attaché à la queue de cet âne, un pinceau, et puis ce pinceau avait été trempé dans des pots de couleurs successives, et puis derrière, il y avait une toile vierge, et puis on donnait un petit coup sur le flanc de l'âne, et celui-ci bougeait sa queue, et puis bien sûr, le pinceau faisait toutes sortes de traits en tout genre, sur cette toile vierge, et puis on a exposé ça, je crois, au premier salon des indépendants, enfin je ne sais pas exactement à quel salon, mais un des grands salons de l'époque, et puis bien sûr la critique s'est extasiée, ne sachant pas qui était véritablement l'artiste, je crois qu'ils avaient signé Boronali, quelque chose comme ça, pour dire voilà, la profondeur du trait, la puissance de la couleur, l'évocation, la symbolique, etc. Et puis à un moment, quand tu as dévoilé la supercherie, ça c'est l'art pour l'art, ça c'est l'univers de l'imbécilité, quand l'individu utilise les capacités qu'il a d'embellir le vrai pour justement créer quelque chose sans se poser la question de savoir si ce qu'il est en train de représenter, eh bien, entre la notion de l'art et de la vérité. Mais voilà un petit peu ces trois noms. Donc on a ici une proposition de savoir sur quoi l'histoire va commencer, sur quoi elle va redémarrer. Shem, Sham, la finalité, Mash, ou alors on s'en retire, sur la dimension physique de l'être, son intellect, et la place du beau, puisque au fond le beau, c'est ce que l'humain sait produire, et à lui de savoir où est-ce qu'il met cette capacité à produire ce beau. Et c'est intéressant de constater que quand Shem, Ham et Yafet vont se retrouver à l'extérieur de la Teva, eh bien, ils vont essayer chacun de leur côté de mettre en place ces modèles, et dans l'histoire, on va voir ce que ça donnera par la suite, en rajoutant quelque chose. Et ce point-là, il est important. C'est qu'ils descendent de la Teva, ils descendent accompagnés de leur père. Tout le monde connaît l'épisode très lourd dans lequel Noach va boire, va se retrouver dans un état d'ivrognerie, si on peut se permettre de le dire de cette manière, en tout cas il est sous. À ce moment-là, de ses fils vont le recouvrir, vont couvrir cette nudité, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et le texte nous dit « Vayachel Noach ish Adam ». Noach est devenu un homme de la terre, « Vayita Karem », il a planté une vigne, et puis de manière surprenante, cette vigne vient, va produire du vin le jour même, et nos maîtres nous disent qu'au fond, qu'est-ce qui s'est passé ? que Noach est devenu Roulin. Il s'est profané littéralement. Pourquoi ? Parce qu'il aurait dû d'abord se préoccuper de planter autre chose qu'une vigne, c'est-à-dire commencer par mettre en place ce que l'on a besoin pour vivre, c'est-à-dire du blé pour en faire de la farine, pour avec cela faire du pain. Quel rapport avec ses fils ? Eh bien, lorsque l'on a en effet trois enfants qui, chacun, vont symboliser ses choix à faire entre deux éléments différents. Est-ce que c'est Ham ou c'est Moar ? C'est Shem ou c'est Mash ? Est-ce que c'est le Yafé, le beau ou alors Petit, l'imbécilité, comme on vient de le dire ? D'où ces choix s'élaborent ? De quelle manière ? Eh bien, à travers la capacité d'être ce que l'on appelle dans une réflexion sur les gestions de priorité, sur, au fond, quelles sont les choses qui sont essentielles, quelles sont les choses qui sont fondamentales, quels sont les points que l'on doit faire émerger en tant qu'être humain. Et le fait que Noach, en descendant de cette arche, se retrouve dans cette situation avec tout ce que ça va générer par la suite, est là pour nous montrer que, eh bien, c'est peut-être ce travail que nous devons faire, parce que l'histoire de ces trois fils, elle nous concerne chacune et chacun d'entre nous. Chacune et chacun d'entre nous est confronté à soit la fuite en avant, soit la question sur la finalité. Chacune et chacun d'entre nous est confronté à ce désir de faire émerger avant tout la dimension matérielle ou alors de donner la primauté à la réflexion. Chacune et chacun d'entre nous peut se retrouver dans une situation dans laquelle, eh bien, il essaye de voir de quelle manière il peut faire éclore la vérité de la plus belle manière qui soit dans l'existence, ou au contraire, il se contente de vivre des choses qui vont le satisfaire, mais qui, quelque part, ne sont pas là comme étant support du vrai. Et Noach, en effet, en descendant de la Teva, la Torah nous dit, oui, il va y avoir, en effet, de son côté, quelque chose qui ne va pas aller, mais si la Torah nous le rapporte, c'est bien pour nous donner des indications sur ce que nous devons être capables nous-mêmes de mettre en place. Voilà un petit peu quelques pistes de réflexion, parce que j'ai l'impression que ce que je viens d'évoquer avec vous, c'est le point de départ de quelque chose de plus vaste, parce que chacun de ces sujets est un thème en tant que tel. Et peut-être que justement, comme vous disiez tout à l'heure parfaitement bien, puisque nous rentrons dans ces Shabbats d'hiver et que nous avons beaucoup plus de temps à passer en famille vendredi soir, eh bien, ça pourrait être peut-être justement l'objet d'un débat et d'une discussion à la table de Shabbat.
Absolument. Moi, je fais toujours ça. Et qu'est-ce que vous avez dit dans Kabbalat Shabbat tous les vendredis ? Parce qu'effectivement, ça engage une conversation et ça permet de quelque chose. J'ai pu comprendre en vous écoutant. Je me suis toujours demandé pourquoi on dit Torah Tachem Temima Merkimat Peiti. Pourquoi on cherche à nous expliquer que la Torah donne de la sagesse aux simples, comme vous disiez. On a vu dans tout l'univers qu'il y a derrière, avec le peu de temps que vous y avez consacré, vraiment c'est magnifique. Ravi Lemel, je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée bien lumineuse, avec la nuit qui va tomber tôt, et bien nourrissante de Shabbat. Shabbat Shalom à vous, Ravi Lemel.
Shabbat Shalom.
On part à présent pour Jérusalem, on le retrouve Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai Biton, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, bonsoir, des bonnes nouvelles, Chorev Bari.
Que des bonnes choses. Ah oui, en plus Chodesh Tov, on peut dire. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas souhaité des trucs en plus de Shabbat. Alors là, on peut se souhaiter un bon mois. Rav Mordechai Biton, on continue notre réflexion sur Noach, Noé, comme on dit en français. Et les Mefarshim, c'est-à-dire ceux qui ont étudié ces textes au travers des siècles, ont noté une ambiguïté dans Noach. Il y a une ambiguïté et donc il faut essayer de la déceler, et c'est le rôle que vous êtes donné dans votre drasha de ce soir.
Absolument. Alors quand on regarde le premier commentaire de Rashi au sujet de Noach, on voit que lorsque Rashi se penche sur la formulation du verset « Ish, un homme », Tzadik, juste, tamim, intègre, bedorotav, dans les générations où il a vécu, à l'époque où il a vécu en quelque sorte, Rachid dit, yesh merabotenu, certains de nos maîtres l'ont expliqué de manière positive, mais yesh omrim, et certains autres ont expliqué de manière négative. Celui qui l'ont expliqué de manière positive disent que s'il avait vécu dans une autre génération, il aurait été encore plus tzadik, et ceux qui l'interprètent de manière négative disent, s'il avait vécu dans une autre génération, par exemple celle d'Avraham Avinu, alors il aurait été considéré finalement comme
banal, quelqu'un de banal.
Comme ça en français, banal. Quel banal. Alors d'abord, je vais rappeler au nom de la Chassidoute, c'est important. Et les maîtres de la Chassidoute, notamment le Rabbi et le Kadosh de Psichra, Rabbi Bounim et Psichra, dit la chose suivante. Il dit, il faut être précis dans ce Rashi, il dit, il y a certains de nos maîtres qui expliquent ça de manière positive, et certains qui expliquent de manière négative. Alors il dit, Rashi il est précis, il dit, quand il parle des gens qui l'interprètent de manière positive, ils disent nos maîtres. C'est-à-dire nos maîtres, c'est ceux qui l'interprètent de manière positive. On va toujours écouter nos maîtres qui expliquent les choses de manière positive. C'est intéressant comme précision de langage. Alors, cela dit, il y a évidemment un problème ici, une ambiguïté. Alors, l'ambiguïté, elle est renforcée même, finalement, à la sortie de la Teva. Lorsque le déluge sera passé, que Noar va sortir de la Teva, là, on voit qu'il va devenir un Ishadama, un homme de la terre. Et il va planter une vigne, et il va se saouler, et il va en découler quelque chose d'horrible. C'est que Ham, son troisième fils, va se livrer à un acte indigne, qui est digne des actes les plus dégradants auxquels on puisse assister, et va s'en suivre une malédiction, et une malédiction sur une partie de l'humanité. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, le fondement finalement de cette ambiguïté, on le trouve dans un compliment, entre guillemets, que Akadosh Baruch Hu, un shevach, une louange, que Dieu lui-même va adresser à Noar. Il lui dit « Otra raïti tzadik, toi, je t'ai vu tzadik. Toi, tu vas rentrer dans la Teva, tu vas aller avec ta femme et tes enfants là-bas, et tous les animaux que vous devez sauver, et toi, je t'ai vu tzadik. » Et là, la question fondamentale, c'est pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu ne retient qu'un seul des trois adjectifs qui avaient été donnés à Noar? On se rappelle que Noar a été qualifié de « ish », un homme parmi des gens qui se comportaient comme des animaux. Tamim, intègre, et tzadik, juste. Pourquoi est-ce qu'on a retenu que celui-là? Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne lui dit que celui-là? Et en fait, nos Mefarshim vont dire la chose suivante. Akadosh Baruch Hu lui dit, sache que lorsque l'on donne à quelqu'un un adjectif, tzadik ou racha, en fait, on l'avertit. Je suis en train de t'avertir. Toi, je t'ai vu tzadik. Tzadik, nous disent nos maîtres, c'est comme Yosef. Yosef était en Égypte. Il était le seul homme tzadik dans une civilisation dépravée. Toi, tu es resté intègre, tzadik, donc juste, dans une civilisation complètement dépravée. Mais alors attention, tu es tzadik, ça veut dire qu'il faut que tu le restes. Et pour que tu le restes, il faut que tu restes effectivement ce que tu as été avant le déluge. Et alors nos Mefarshim disent que là, Noar, en quelque sorte, il va dire de lui-même, en quelque sorte également, qu'il est tzadik. Et alors là, il est mis à l'épreuve. Tu es tzadik, Noar? Très bien. Bon, on va te rentrer dans la Teva, on va voir ce que tu vas devenir dans la Teva. Et dans la Teva, il va rester comme ça pendant quelques mois, il va devoir s'occuper de tous les animaux, à tous les instants, et penser à tout ce dont ils ont besoin. Et donc, à un moment donné, la dimension du chesed, la dimension de la bonté qui manquait tellement dans la civilisation du déluge, est une dimension dans laquelle Noar, à son niveau, va faillir, puisqu'il ne nourrit pas en son temps le lion qui le frappe, nous dit le Midrash, et donc il va boiter, il va sortir boiteux de la Teva. Il y avait donc une leçon ici, un avertissement, un qualificatif, une leçon, en même temps une louange, mais un enjeu. Et c'est comme si, nous disent les Mefarshim, comme si Noar ne l'avait pas complètement rempli à son niveau. Et alors quand il va sortir, là, il dit, bon, il faut que je sois un homme modeste, donc je vais être un homme de la terre. Mais il n'atteint pas le niveau de Avraham Avinu, de Avraham, qui dit, Ani Afar Vaefer, je ne suis que poussière et cendre. Il n'atteint pas le niveau de Moshe Rabbeinu, qui dit, Venachnu Ma. L'homme, c'est une question, c'est un Ma, c'est une béance, c'est un trou, c'est un abîme profond. L'homme, finalement, c'est Ma, c'est une question. Il n'atteint pas ce niveau, il est Ishadama. Et donc, comme la leçon, en quelque sorte, n'est pas complètement retenue, et ben finalement, en étant un Ishadama, il se trompe, en quelque sorte, de destination. Et là, il va se tromper, il devient saoul, et il va s'en suivre donc cet acte particulièrement horrible. Alors, il y a même un Midrash qui est très intéressant, qui est rapporté par le Rachay Makadosh au début de la paracha, sur le verset 9, donc sur le chapitre 6, et là c'est le Midrash se trouve dans Dvarim Rabba, au chapitre 11, au paragraphe 3, il dit la chose suivante. Noar va dire à Moshe, je suis plus grand que toi. Et Moshe lui dit, toi, tu t'es sauvé, toi, mais tu n'avais pas en toi la force de sauver toute ta génération. Alors ça c'est très intéressant aussi, parce que là aussi ça relève de cette ambiguïté. Qu'est-ce que ça veut dire que Noar a besoin de se confronter à Moshe Rabbeinu? Je suis plus grand, je suis moins fort. Qu'est-ce qu'il nous dit ici le Midrash? Le Midrash ici nous dit de manière symbolique, qu'il y a en fait un rapport entre Noar et Moshe. Et effectivement, Moshe a été sauvé des eaux, dans une Égypte dépravée, Noach a été sauvé des eaux dans une génération dépravée. Moshe a permis au peuple juif de recevoir la Torah, et la génération, nous disent les sages du Zohar, la génération du déluge pouvait recevoir la Torah. Et d'ailleurs, les sages du Zohar nous disent que la génération du déluge est revenue en Gilgoul, elle est revenue dans la génération qui a reçu la Torah à l'époque de Moshe Rabbeinu. On veut simplement nous dire par là qu'il y a ici, en quelque sorte, il y avait à l'époque de Noach une possibilité qui a été celle que Moshe Rabbeinu, que Moïse a su donner au peuple juif. Il y avait là un défi que Moshe a su relever. Et donc il y avait une équivalence entre les deux, une équivalence de possibilités. Mais la génération de Noach était une génération finalement pour laquelle Noach ne pouvait rien faire. Et c'est la raison pour laquelle les maîtres de la Chassidoute disent nos maîtres, ce sont ceux qui interprètent ce Dorotav, c'est-à-dire cette relativisation du statut de Noach de manière positive. C'est-à-dire que c'est sûr que Noach était un tzaddik, et c'est évident que, porté qu'il était par cette tzidkout et par sa justice, s'il avait vécu dans une génération comme celle d'Abraham, d'Yitzhak, de Yaakov, il aurait été bien sûr encore plus juste, parce que finalement, la génération n'était pas capable de recevoir Noach. C'est ce que nous dit finalement de maître de la chassidoute. Le pshat, le sens littéral des textes et des commentateurs d'ici, c'est que finalement, Noach finalement n'a pas réussi à sauver sa génération. Le tzaddik, il doit sauver sa génération, il doit tout faire pour sauver sa génération, il doit activer toutes les portes de la miséricorde, du chesed et de la bonté divine. Mais il faut imaginer, et d'ailleurs la Torah fait ce clin d'œil, quand Hachem s'adresse à Noach, il lui dit que toute la tête va t'icharet lifnea à Elohim. La terre s'est pervertie en présence d'Hachem. Mais il y a une autre manière d'expliquer, d'après les Mefarshim, c'est que la terre s'est pervertie avant même que Hachem, dans sa mida, dans son trait de caractère de Elohim qui juge, puisse même exercer un jugement. Elle est tellement pervertie que même moi, Dieu, je ne peux même plus sous-peser les mérites ou au contraire les manques de mérite de cette génération. Et donc Noach lui-même ne pouvait pas le faire. Donc évidemment, la question fondamentale pour conclure cette réflexion, c'est que finalement, il y a une ambiguïté. Elle est posée clairement par les Mefarshim, par les commentateurs de tous les siècles. Et je pense que ce que nous, on peut en retirer comme enseignement, c'est que finalement, dans une génération qui se pervertit, et nous vivons dans une génération aujourd'hui où on pervertit beaucoup le sens des choses, le sens du couple, le sens de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme, de ce qu'est finalement une créature divine. On pervertit, on vit dans une génération qui a énormément perverti les choses. Et dans cet univers-là, le rôle du tzaddik et le rôle de chacun d'entre eux, finalement, c'est de savoir se préserver, c'est de rentrer dans sa teva, dans sa maison, dans une maison qui soit chaude, agréable, bien construite, pensée selon les règles de la Torah, et de se protéger. Noach, en tout cas, lui, il a réussi à faire ça, et je pense que c'était fondamental. Et d'une certaine manière, c'est retenu à son mérite qu'il ait réussi au moins à faire en sorte que jusqu'au déluge, ses fils soient suffisamment tzaddiks pour rentrer dans la teva. Voilà ce qu'on peut dire. Dernier point également à relever, c'est un petit clin d'œil également par rapport à, on va dire, à l'actualité socio-philosophique, on va dire comme ça, c'est que Noach savait instinctivement quelles étaient les espèces qui n'étaient pas perverties. C'est-à-dire que quand un représentant mâle arrivait avec la femelle et le mâle arrivaient ensemble, ça voulait dire qu'ils avaient compris, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été pervertis par l'égoïsme de la génération. Parce que la Torah insiste à plusieurs reprises sur le fait qu'il fallait qu'à chaque fois que les animaux rentrent deux par deux, toujours deux par deux, deux par deux, deux par deux. C'est répété à plusieurs reprises. Pourquoi ? Parce que la génération du déluge, c'est la génération de moi. C'est réduire l'homme à sa dimension corporelle, donc plus de divinité, et à sa dimension individuelle, donc plus d'attention à l'autre. C'est moi d'abord avant toute chose. Et Noach, lorsqu'il faisait rentrer des animaux, il faisait rentrer des animaux qui savaient que pour vivre, il fallait s'accoupler selon les espèces, c'est-à-dire vivre deux par deux. Et c'était là le drame de la génération du déluge. C'est que de perversion en perversion, ils sont arrivés à la destruction même de la capacité de vivre avec l'autre. Et donc c'est la raison pour laquelle ils en sont arrivés au Hamas, au vol à la violence, alors que Noach, lui, il a su précisément repérer, et c'est ça parce que, sa grandeur, il savait même repérer chez les animaux qui finalement n'avaient pas été atteints par ce mal et qui finalement savaient partager avec l'autre. Ça, je pense que c'est fondamental parce qu'on vit dans une génération qui, d'une certaine manière, dans certaines valeurs, ressemble finalement à celle du déluge. Il y a un égoïsme qu'on a vu à l'époque du déluge, alors que la Torah nous propose au contraire de faire attention à l'autre, de vivre avec l'attention à l'autre et la capacité de regarder l'autre. Ben, Shabbat Shalom à toutes et à tous, Bezrat Hashem, des très bonnes nouvelles pour nous tous.
Eh bien, on va y réfléchir. Merci Rav Mordechai Bitton. En même temps, cette ambiguïté, c'est très humain. Vous décrivez un être humain. Quelqu'un qui aurait pu être plus tzaddik dans d'autres circonstances, peut-être moins. Il a été ce qu'il a été, il a construit son foyer. Finalement, en vous écoutant, je me disais, il est très humain, ce Noah.
Absolument, mais la Torah finalement s'efforce de rendre tous les hommes dont elle parle très humains, et c'est ce qui révèle, je pense, la grandeur et même la véracité de la Torah, c'est qu'elle n'a pas de problème à nous montrer combien les fondateurs du peuple juif et les fondateurs de l'humanité étaient des gens vraiment humains. C'est ça, et donc elle nous invite à comprendre leur humanité, leur ambiguïté, et donc à en tirer toujours des enseignements positifs.
Magnifique. Je vous souhaite un Shabbat Shalom, vraiment des habitants, vous qui êtes à Jérusalem. Excellente soirée, et puisqu'on peut se le dire encore, Chodesh Tov, un bon mois de Cheshvan.
Chodesh Tov, je vois, un très bon mois de Cheshvan, absolument.
Et nous sommes en ligne avec Maria Chadret. Bonjour Maria Sacha, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Mvorar.
Maria Chadret, on va parler d'un événement particulier que tout le monde connaît, qui est très beau, et que finalement on discute très peu. D'ailleurs peut-être parce qu'il est demandé de ne pas trop regarder. Mais je ne vais pas le faire à votre place. Vous allez nous parler de l'arc-en-ciel ce soir, Maria Chadret.
Eh oui, c'est ça. J'ai voulu m'intéresser à ce magnifique phénomène optique et avec l'aide du Shvili Pinchas, eh bien, on a des explications, je trouve, merveilleuses sur ce phénomène. Alors, vous savez, on parle de l'arc-en-ciel dans la paracha de la semaine, au moment où Noé est enjoint de quitter l'arche après le déluge, l'humanité décadente a été balayée, et il est seul survivant de cette humanité. Donc, on imagine hein, ce fameux syndrome du survivant, cette angoisse de Noé, et puis cette question évidente qu'il a, mais finalement, qui me dit que l'humanité ne va pas à nouveau être décadente, et puis à nouveau, c'est-à-dire, est-ce que finalement je ne vais pas mettre au monde des enfants et les faire vivre dans un monde qui va à la dérive complètement. Et sa question est tout à fait actuelle. Et en fait, malheureusement, on sait que l'histoire lui a donné raison et que par la suite, dans la paracha de Noé, eh bien, on a la fameuse génération de la tour de Babel, tout aussi décadente que la précédente. Donc, la question de Noé est légitime. Noé est extrêmement inquiet. Il ne veut pas sortir de l'arche. Il ne sait pas quel avenir lui propose l'humanité finalement, et pourquoi s'inscrire dans cette humanité. Et Dieu va le rassurer en lui promettant de ne plus anéantir le monde, mais surtout, il va illustrer sa promesse par le signe de l'arc-en-ciel, et il va dire voilà, c'est le signe de l'alliance, Zot Ot Abrit, c'est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toutes les créatures de la terre. Donc finalement, même si le monde devait à nouveau être décadent, eh bien, je ne l'annulerai pas. Et évidemment, cette question évidente, bon, c'est joli, l'arc-en-ciel, c'est un signe, c'est une promesse de Dieu, ok. Et finalement, en quoi est-ce susceptible de rassurer Noé ? En quoi est-ce susceptible de nous rassurer, nous, quand on entend des faits divers ou juste des phénomènes de société ou des transformations de notre société extrêmement inquiétant pour nos enfants, extrêmement inquiétant, tous les dérèglements dont fait l'objet la société aujourd'hui, ben finalement, comment l'arc-en-ciel peut-il être le signe finalement d'un mieux pour la société? Alors, l'explication qu'en donne le Rav Pinchas Friedman est la suivante. Il dit qu'effectivement, toute la problématique depuis la faute d'Adam et Ève et la problématique de la génération du Maboul, du déluge, c'était... le texte dit « Vatimale aretz Hamas ». Le Hamas, dit Rashi, vole avec violence et dérèglement sexuel et idolâtrie. Donc en fait, les frontières ne sont plus claires entre les humains. Et la condition charnelle, corporelle de l'homme va prendre le dessus sur sa spiritualité. Finalement, c'est son corps qui va lui dicter ses actions, c'est son ego, c'est la force de son état corporel sur Terre qui va lui dicter ses actions. Et il va en oublier tout de sa spiritualité. C'est ce qui est écrit succinctement ici, et tout cela provient, comme on le sait, de la faute d'Adam et Ève. Comment réaccorder à l'homme, c'est la question de Noé, sa conscience, ses valeurs éthiques et toutes les notions de spiritualité et d'intériorité. Et là, Dieu lui présente le phénomène optique que nous connaissons bien, qui n'est rien d'autre qu'une vraiment une vision que nous avons, au niveau de la lumière qui rencontre l'eau. Donc, quand le rayon du soleil rencontre des gouttes d'eau et réfléchit à l'intérieur de ces gouttes d'eau, eh bien, il va se diviser. La lumière va se réfléchir de telle sorte qu'elle va se diviser avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, on va voir apparaître la lumière, mais dans son prisme, dans le prisme dévoilé de la lumière multiple, disons. La lumière sous toutes ses facettes. Mais ce n'est rien d'autre qu'une rencontre entre la lumière et la pluie qui s'appelle Geshem. La pluie qui s'appelle Geshem représente ici, d'ailleurs c'est le mot Geshem en hébreu, la Gashmiut, le monde matériel, la matérialité. Et l'homme qui a voulu se couper de sa spiritualité, voilà que tout d'un coup, la lumière, c'est or, et ce n'est pas sans nous faire penser à la lumière originelle, à la lumière du premier jour de la création, eh bien, se ferait un chemin au milieu des nuages. Les nuages ici ont une symbolique extrêmement forte. Les nuages, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas voir le ciel. C'est l'écran entre le monde de la terre, le monde matériel, et le ciel. Les nuages font écran. Et les nuages ici symbolisent eh bien, tous les nuages de notre vie, c'est-à-dire aussi bien nos épreuves que nos erreurs, que nos fautes, que nos manquements. Enfin, tout ce qui fait qu'à un moment, on se dit « mais où est le soleil? Où est la lumière? Où est Dieu dans ma vie ?» pour le dire plus simplement. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de lumière, on a l'impression que tout est obscur, on a l'impression d'être dans le brouillard, justement. C'est cette épaisse couche de nuages. Et là, Dieu vient et s'infiltre, pour ainsi dire. Il se fait un petit passage, il s'infiltre et il nous dit « écoute, voilà, là où tu crois que le monde est que matière et seulement dirigé par le monde économique, les puissances économiques ou les forces pulsionnelles de qui est présente sur Terre, eh bien, je te rappelle qu'il y a de la lumière, qu'elle peut pénétrer. » Et le Rav Pinchas Friedman va évoquer un des 10 miracles qui avait lieu au temple, c'est le miracle de justement c'est la fumée qui montait de l'autel et qui monte droit vers le ciel. Et même s'il y avait du vent, eh bien, le vent ne réussissait pas à balayer cette fumée. Un peu comme si cette colonne de fumée qui passait du monde du temple jusqu'au ciel eh bien, nous indiquait un passage possible vers la spiritualité, vers le haut, malgré ce qui peut se passer, malgré les écrans de la vie. Et eh bien, je crois que l'idée de l'arc-en-ciel est toujours aussi, aussi actuelle, d'autant que la forme que prend l'arc-en-ciel est extraordinaire. Les couleurs sont bien sûr magnifiques, mais la forme, c'est cette forme arrondie vers le haut. Un peu comme, d'ailleurs, on dit l'arc, okay. Eh bien, c'est comme si on prenait un arc avec une flèche et qu'on le dirigeait vers le haut, comme si justement on voulait balayer les nuages, tous ces nuages de notre existence, et se frayer un chemin vers le haut. C'est exactement ce qu'utilise Yaakov quand il bénit ses fils et qu'il utilise le terme Becharbi ou Bekashti à l'aide de mon arc. Et sur place, Onkelos dit mon arc, eh bien, c'est mes prières. Donc, l'arc-en-ciel vient ici de façon extrêmement symbolique, nous dire que même quand il y a des nuages, la lumière est encore là et elle traverse ces nuages sous toutes ses formes. Et c'est une invitation qui vient d'en haut à l'homme à venir et à diriger son arc symbolique, ses prières, ses demandes et son regard vers le haut pour pouvoir balayer les nuages et quand même avoir accès à la transcendance. Et finalement, c'est ainsi que Dieu rassure Noé et lui dit « Tu t'inquiètes pour les générations à venir, sache qu'ils auront toujours la possibilité de balayer les nuages, sache qu'ils ont cette force, leur arc à eux, l'arc à Tfila, qui est symbolisé par cet arc-en-ciel, et sache que la lumière du divin, est toujours là, elle pénètre l'épaisseur du brouillard de la vie et vous en avez un accès absolu. »
Eh bien, on va chercher cet accès. J'ai compris que ça pouvait être à la fois très simple et ça peut prendre aussi pas mal de temps, hein. Chercher l'accès vers le ciel, c'est pas une petite mission. Et je pensais, en vous écoutant, à ce que disait Rav Moulay Azimov, lorsqu'il donnait des cours de Tanya. Il disait qu'il faut rechercher la lumière. Bon, on est dans du Tanya. Mais il disait, mais attention, hein, lumière aussi physique.
Il insistait, il disait lumière spirituelle et lumière physique, c'est-à-dire qu'on ne vit pas dans des lieux obscurs, sombres, on cherche... Alors, il faut aimer vivre dans la lumière. Maria Chadré, je vous remercie. Shabbat shalom. Et je profite de notre... j'en profite pour dire Shabbat shalom à tous nos auditeurs. Sachant que je les retrouve à 18h précise pour un journal qui sera enregistré. Excellente soirée à tous, Shabbat Shalom et à tout de suite.
Shalom loy boy na boy, Hashem lo yishmari, Shalom shokat shoyim.